Annie. Deuxième partie, chapitre 13. Quand, après plus d'un quart d'heure d'explications entortillées, Sixte comprit où tendaient les discours du notaire, il commença par se retrancher derrière la réponse qu'avait prévue Annie. « Mais je ne peux pas entrer en rivalité avec Darjusanx, qui est mon ami. Avez-vous d'autres objections à opposer à ce que je viens de vous dire ?»«
Aucune.
Mademoiselle Annie vous plaît-elle ?»« Je la trouve charmante, à tous les points de vue. » »« Alors, ne vous embarrassez pas de scrupules qui n'ont pas de raison d'être. Vous n'entrez pas en rivalité avec M. Darjusanx, que Mademoiselle Annie refuse. »
« Ah, elle refuse ? Elle refuse d'épouser Darjusanx ? Comment ? Pourquoi ?»
Cela fut dit avec une vivacité qui frappa le notaire. Évidemment, ce sujet ne laissait pas Sixte indifférent.
« Je n'ai pas reçu les confidences de la jeune fille, qui ignore ma démarche auprès de vous. Cela va sans dire.
Je ne peux donc pas vous répondre catégoriquement. Mais... de celle du père, il résulte que M. Darjusanx ne plaît pas, soit pour une raison, soit pour une autre. Et, cela étant, la famille trouve convenable de ne pas prolonger des relations que le monde pourrait mal interpréter. D'ailleurs, ces relations ne sont établies que sous conditions suspensives, comme nous disons nous autres gens de loi. Quand le baron a fait part à mon ami Barinck de son désir d'épouser Mademoiselle Annie, celle-ci a répondu qu'à ce moment, M. Darjusanx lui était indifférent et que, si on voulait d'elle un engagement immédiat, elle ne pouvait pas le prendre, puisqu'elle ne connaissait pas celui qu'on lui proposait. Mais que, pour ne pas contrarier ses parents touchés par les avantages de cette alliance, elle était disposée à se rencontrer avec M. Darjusanx comme celui-ci le désirait. Si, en apprenant à le connaître, ses sentiments changeaient, elle accepterait ce mariage. Sinon, elle le refuserait. Il paraît que ses sentiments n'ont pas changé. Cette situation n'est-elle pas parfaitement nette ?
Il est vrai.
Maintenant, pourquoi M. Darjusanx ne s'est-il pas fait aimer ? Je n'en sais rien. Vous qui êtes son camarade, vous pouvez mieux que moi répondre à cette question.
Sait-on pourquoi l'on aime ?
Précisément, parce que je suis le camarade de M. Darjusanx. Je trouve qu'il a tout pour être aimé.
Alors, comme il ne l'a point été, il en résulterait que la jeune fille ne pouvait pas être sensible à sa recherche.
Pourquoi ? C'est encore une question à laquelle je ne me charge pas de répondre.
Moi, bonhomme de notaire, je ne dois m'en tenir qu'aux faits.
Or, ceux qui m'amènent près de vous se résument en trois points. Premièrement, Barinck a pour vous autant de sympathie que d'estime. Deuxièmement, il ne tient pas à la fortune de son gendre. Troisièmement, il se considère comme le continuateur de son aîné, et en cette qualité, il croit que c'est un devoir pour lui d'exécuter les engagements ou les intentions de Gaston. Cela dit, et sans insister davantage, ce qui ne serait pas dans mon rôle, je vous laisse à vos réflexions. Lorsqu'elles seront mûres, vous m'écrirez, ou vous viendrez déjeuner à Ourteau, ce qui sera mieux. Parce que, si vous avez des observations à présenter, j'y répondrai de vive voix. J'étais l'ami et le conseil de Gaston. Je suis l'ami et le conseil de Barinck. J'ai pour vous une amitié véritable. Si vous jugez qu'en cette circonstance, mes avis peuvent vous être utiles, je les mets à votre disposition. » Là-dessus, Rébénac se leva et partit. Pour une première négociation, c'était assez. Tout bonhomme de notaire qu'il fût, il savait parfaitement qu'en posant la question à propos de l'insensibilité d'Annie, il avait planté dans le cœur de Sixte un point d'interrogation qui allait faire travailler son esprit et que le mieux était de laisser ce travail se faire sans témoin. Il ne pouvait y avoir qu'une réponse à cette question ainsi formulée. Son cœur était gardé. De là, à chercher par qui, il n'y avait qu'un pas à franchir, et ce n'était pas un brillant officier de dragon qui devait hésiter. En effet, la surexcitation sur laquelle le notaire comptait se produisit chez Sixte, et quand il fut seul, il ne put pas ne pas s'avouer qu'il se trouvait dans un état de trouble violent assez difficile à définir, délicieux et douloureux à la fois. Et quoi, cette belle fille, est-ce possible? Pourquoi pas, après tout? Pourquoi n'aurait-il pas produit sur elle l'impression qu'elle avait faite sur lui le jour où, pour la première fois, il s'était trouvé en présence sur la grève de la grande plage? Tandis qu'il était arrêté dans son vol par Darjusanx, qui s'accrochait à lui, elle, de son côté, était libre, libre de rêver, et même d'arranger dès 7 heures sa destinée. Était-ce dans sa position de pauvre diable, avec une naissance qui était une tare, sans famille, sans relation, sans appui dans le monde, qu'il pouvait avoir l'espérance de lutter contre un rival comme Darjusanx? Ce serait plus que de la folie, de la bêtise. Pas pour les officiers de son espèce, les belles filles riches. Qu'aurait-il à lui offrir? La vie lui avait été assez cruelle pour lui apprendre ce qu'il pouvait, c'est-à-dire moins que rien. Il n'avait donc qu'à s'effacer, à laisser le premier rôle à Darjusanx et à prendre celui de confident, ce qu'il avait fait. Ainsi, il avait vu grandir l'amour de son rival et en avait suivi le développement, les enthousiasmes, comme les inquiétudes et les craintes, se tenant à son plan, affectueux avec Annie, mais rien de plus, et même lorsqu'il s'observait, réservé. Mais pourquoi Annie, qui n'était pas retenue par les mêmes raisons, n'aurait-elle pas écouté les seules impulsions de son cœur? Sa fortune la laissait maîtresse de faire ce qu'elle voulait, d'aimer qui lui plaisait, et la douce autorité qu'elle exerçait sur son père et sa mère l'assurait à l'avance qu'elle ne serait jamais violentée dans son choix. Quand ces hypothèses s'étaient parfois présentées à son esprit, après quelques heures passées avec Annie, il les avait toujours repoussées, se fâchant contre lui-même de ce qu'il appelait son infatuation. Mais maintenant, elle n'était plus rêverie en l'air et reposait sur 2 faits matériels, la rupture avec Darjusanx et la démarche du notaire. Sans doute, Rébénac était sincère en disant qu'il n'avait pas reçu les confidences de la jeune fille et que celle-ci ignorait sa démarche. Mais il n'en était pas moins certain que cette démarche se faisait avec l'autorisation du père, qui, vraisemblablement, ne l'aurait pas permise s'il n'avait su qu'il ne serait pas désavoué par sa fille. Et la sympathie, l'estime du père, c'était un fait aussi. De même, il y en avait encore un autre qui n'était pas de moindre importance. Le désir de continuer le frère aîné en exécutant dans une certaine mesure les intentions de celui-ci. Et par sa chambre, il tournait à pas précipités, s'arrêtant tout à coup, reprenant aussitôt sa marche, répétant machinalement à mi-voix des mots entrecoupés. Se marier, cette belle fille, se marier, se marier. C'était celui-là qui revenait le plus souvent, comme le refrain de la chanson que chantait son cœur. Quelle envolée pour lui! Quel changement de destinée! Au temps où il se savait l'héritier de Gaston, il s'était arrangé un avenir avec un intérieur, une famille, tout ce qui avait si douloureusement manqué à sa jeunesse, et, s'il n'avait pas dès ce moment réalisé ses rêves, c'est que Gaston ne l'avait pas voulu, se réservant de trouver lui-même la femme qu'il voulait lui donner, et qui devait réunir un tel ensemble de qualités qu'on ne pouvait la prendre au hasard.
il fallait chercher, attendre. Mais, en attendant, la mort était venue, et le testament qu'il connaissait dans ses dispositions principales ne s'était pas retrouvé. De la fortune certaine qui permettait tous les espoirs et toutes les ambitions, il était tombé à la misère. Si violente qu'eût été la chute, il n'était cependant pas resté écrasé. À la vérité, il avait eu un moment de protestation, suivi d'une période de révolte et d'amères récriminations. Qu'avait-il fait pour mériter une si rude destinée? Mais il n'était pas homme à se courber sous la main qui le frappait et à s'aigrir dans le désespoir. Il ne pouvait être que soldat. C'était déjà beaucoup qu'il pût l'être. Et tout de suite, abandonnant l'appartement confortable que la pension que lui servait M. de Saint-Christaud lui permettait d'occuper, il avait loué une chambre modeste, l'ameublant simplement des meubles qu'il conservait, et régler les dépenses de cette nouvelle existence sur sa solde de capitaine. Et cela s'était fait dignement, sans plainte, comme sans honte, sinon sans regret. Il aurait la vie de l'officier pauvre, et encore serait-elle moins misérable que celle de plusieurs de ses camarades, puisqu'il n'avait pas de dettes et n'en ferait jamais. Et voilà que tout à coup, d'un mot, le notaire lui rouvrait les portes de la vie heureuse. Cette belle fille, qu'il avait dû s'habituer à regarder et à traiter comme la femme d'un autre, pouvait être la sienne. Ah, vraiment ! Ah, vraiment ! Et il riait en arpentant sa chambre, dont le parquet craquait sous ses coups de talon triomphants. Réfléchir ? Ah, bien oui ! Ce n'était pas à ces réflexions que le notaire l'avait laissé, c'était à la joie. Cependant, quand le premier trouble commença à se calmer un peu, la pensée de Darjusanx se présenta à son esprit, sinon inquiétante, au moins gênante. Darjusanx eût été un indifférent ou un inconnu, qu'il n'eût pas eu à s'en préoccuper. C'eût été un simple prétendant refusé, comme il devait y en avoir déjà quelques-uns de par le monde, dont il n'avait pas à prendre souci. Mais, avec Darjusanx, il n'en était pas ainsi. Ils étaient camarades, amis, il avait été son confident, et cette qualité lui créait une situation toute particulière, qui devait être franche et nette, de façon à ne permettre plus tard ni fausses interprétations, ni accusations, ni récrimination. Pour cela, il convenait donc qu'il y eût une explication entre eux qui précisa bien qu'il ne se posait point en rival. S'il prétendait à la main d'Annie, c'est qu'elle était libre. S'il passait au premier rang, après s'être si longtemps effacé, c'est que ce premier rang n'était plus occupé. Il connaissait trop Darjusanx pour imaginer que cette communication serait accueilli d'un front serein, mais il croyait le connaître trop bien aussi pour admettre qu'elle pût provoquer une rupture ou une querelle entre eux. Il y aurait mécontentement, vexation, blessure d'amour-propre, mais ce serait tout. Plus tard, Darjusanx serait le premier à se dire que cette démarche était d'une entière loyauté et qu'il n'avait qu'à se soumettre à la force des choses. Aussitôt, il lui écrivit pour le prévenir que le surlendemain, il irait à Seignos, afin d'avoir avec lui un entretien sur un sujet important, le priant, au cas où ce rendez-vous indiqué ne lui conviendrait pas, de l'en avertir par un mot et de lui en donner un autre. Le lendemain, aucune réponse n'étant arrivée, Sixte prit le train pour Seignos, un peu surpris que Darjusanx ne lui eût pas écrit qu'il l'attendait, mais ne doutant pas cependant de le rencontrer. Aussi ne fut-il pas peu étonné quand un jardinier qu'il rencontra répondit à sa question que monsieur le baron n'était pas au château. « Où est-il ? » ?»«
Je n'en sais rien, mais monsieur Toulourinc vous le dira mieux que moi. »
En effet, Toulourinc, l'ancien lutteur que le baron avait recueilli, un peu pour travailler avec lui et beaucoup par charité,
faisait en quelque sorte fonction de majordome au château, et en cette qualité devait savoir ce que les gens de service ignoraient. L'absence du baron ne fut pas le seul sujet d'étonnement du capitaine. Comme il se dirigeait vers le château, il n'aperçut aucun des nombreux ouvriers qui, en ces derniers temps, travaillaient au jardin et au château lui-même, pour que le vieux domaine, abandonné depuis si longtemps, fut digne de recevoir Annie lorsqu'elle viendrait l'habiter. Comme ses travaux considérables s'appliquaient à tout, aux pelouses qu'il fallait retourner et vallonner, au toit qu'il fallait refaire, à la façade qu'il fallait ravaler, aux volets et aux fenêtres qu'il fallait repeindre, et à tout l'intérieur qui était entièrement à reprendre du haut en bas, on les poussait aussi activement que possible, sans temps perdu, sans respect du dimanche ou des lendemains de paix. Cependant, ce jour-là, tous les chantiers étaient déserts, aussi bien dans les jardins qu'aux environs de la maison. Pas un ouvrier. Partout, l'image du travail brusquement interrompue. Les brouettes sur les pelouses, les échelles sur les toits, contre les façades, les échafaudages, au pied des constructions, les pierres, le sable, le mortier gâché tout prêt à être employé et resté là. Le même abandon se retrouvait à l'intérieur et le haut vestibule aux voûtes sonores était plein des copeaux et des papillotes des menuisiers, mêlés aux baquets, aux bidons et aux échelles des peintres. Il fallut un certain temps avant qu'une servante répondît au coup de sonnette de Sixte. Elle dit, comme le jardinier, que monsieur le baron n'était pas au château. « Et monsieur Toulourinck ?»«
Ah, voilà, monsieur Toulourinck est en train de fricasser une fraissure d'agneau, et quand il fait la cuisine, il ne peut pas se déranger. »«
Eh bien, dit le capitaine, je vais l'aller trouver dans sa cuisine. »«
Si monsieur veut. »
Devant un fourneau au charbon de bois qui jetait de pétillantes étincelles dans la vaste cuisine, Toulourinck, ses larges reins d'Hercule ceints d'un tablier de toile blanche, présidait gravement à la cuisson de sa fraissure, une cuillère de bois à la main. Quand, en se retournant, il reconnut le capitaine, il porta machinalement cette cuillère à son front en faisant le salut militaire.
« Oh, mon capitaine, excusez-moi. »
« De quoi donc ?»«
De vous recevoir ici.
Mais voilà la chose. J'aime la fraissure et on ne sait pas l'accommoder ici. On la fait revenir au beurre quand c'est de l'huile qu'il faut. Alors, comme je suis seul, je m'en préparais une à la mode de mon pays. »«
Vous êtes donc seul au château ?»«
Oui, mon capitaine. Monsieur le baron est en voyage. »«
Depuis quand ?»«
Depuis vendredi. » »«
Pour longtemps ?»
« Je n'en sais rien, et comme mon capitaine est l'ami de monsieur le baron, je peux bien lui dire que j'en suis tourmenté. »«
Comment cela ?»
Avant de répondre, Toulourinck versa une demi-bouteille de vin blanc dans sa casserole.
« Faut que ça réduise sur feu vif, » dit-il. « Pendant que ça cuira, je vous raconterai la chose.
Voulez-vous entrer dans le petit salon ?»«
Nous sommes très bien ici. » »«
Donc ?» Vendredi, pendant que je travaillais avec monsieur le baron, on lui apporte une lettre.
Il la lit. Son visage se décolore et ses mains tremblent. Il n'y avait pas besoin d'être fin pour deviner que c'était une mauvaise nouvelle. Sans rien dire, je file pour ne pas le gêner. 2 heures après, qu'est-ce que j'apprends? Ce qui va vous renverser aussi, je parie. Qu'il a donné ordre à tous les entrepreneurs d'interrompre les travaux partout, le soir même, et de laisser les choses dans l'état où elles sont, sans s'inquiéter du reste.
Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pensez bien que je n'ai pas l'idée de le questionner. D'ailleurs, il ne m'en laisse pas le temps. Il me fait appeler et m'annonce qu'il part en voyage. Je lui demande, comme toujours, où il faut lui envoyer ses lettres. Il me répond qu'il n'y a qu'à les garder. 5 minutes après, il monte sur sa bicyclette et le voilà parti, avec une figure plus tourmentée encore que celle que je lui avais vue quand il avait reçu la lettre. Où est-il?
Depuis vendredi, nous sommes sans nouvelles. Si vous pouvez me dire ce que ça signifie et ce que j'ai à faire, je vous en serai reconnaissant. Partout, on me poursuit tant et tant que je n'ose plus sortir. »
Ce que cela signifiait, Sixte le devinait. En recevant la lettre qui lui annonçait le refus d'Annie, le baron avait interrompu les travaux qu'il ne faisait exécuter que pour recevoir sa femme, et il était parti, furieux ou désespéré, en tout cas dans un état violent. Mais c'était là des explications qu'il n'y avait pas nécessité de donner à Toulourinque, qui, d'ailleurs, faisait tout ce qu'il fallait pour se consoler. Assurément, Sixte eût préféré avoir une explication avec le baron, mais puisqu'en partant celui-ci paraissait renoncer à toute espérance, il fallait bien accepter la situation telle que ce départ la faisait. Ce n'était pas la main d'une fille déjà engagée qu'il demandait. C'était celle d'une fille libre. Il expliquerait cela à d'Arjusanx dans une lettre, franchement, loyalement. Et, au lieu de revenir à Bayonne, il prit le train pour Puyot, d'où une voiture l'amena chez Rébénac, qui, immédiatement, tout fier du succès de sa négociation, alla avec lui au château.